La vie religieuse à Biarritz il y a 150 ans. Voici une conférence de Béatrice Leroy, professeure honoraire de la faculté d'histoire de l'Université de Pau, conférence enregistrée dans le cadre du 150e anniversaire de la Vierge du Rocher à Biarritz, en l'église Sainte-Eugénie, le 7 juin 2015. La vie religieuse à Biarritz il y a 150 ans, Béatrice Leroy.
Monsieur le curé, chers amis, la Vierge du Rocher en effet rythme la vie de Biarritz depuis un siècle, le 11 juin. Reste encore, cette petite causerie aurait dû se tenir le 11 juin, c'est-à-dire jeudi prochain. Enfin, tant pis. Donc, nous la précédons. Et le 11 juin 1865, la Vierge a été placée au haut du rocher, elle a été bénite, et désormais, elle veille sur la mer et Biarritz. L'impératrice Eugénie, nous allons reparler de tout cela en détail, voulait absolument édifier au haut du rocher de Cucurlon, une vierge. L'empereur Napoléon III ne le voulait pas. Il ne voulait pas faire de ce rocher un édifice religieux. Il était en train de réaliser ce qu'il aurait voulu appeler le port du refuge, c'est-à-dire une longue digue courbe. On en voit quelques photos des années 1890-1900 qui devaient rejoindre quelques rochers, mais au fur et à mesure de cette construction, la mer démolissait tout ce qui avait été édifié, au-delà donc de Cucurlon, en demi-cercle, pour abriter le port des pêcheurs, port du refuge. L'assise de rocher, l'assise dans la mer, était probablement peu solide. En tout cas, il y a eu tellement de tempêtes et tellement de ruines que cette première ébauche de la grande digue, qui aurait peut-être brisé les lames et empêché les belles vagues de nous donner de si beaux spectacles, a été abandonnée. Mais l'industriel Blanchard de Bayonne, qui lui-même dirigeait des fonderies, avait dit à l'empereur « Vous construirez le port et moi, j'y ferai placer la statue de la Vierge. » Il était très proche des courants catholiques, zélés, très pratiquants. Il voulait faire plaisir à l'impératrice Eugénie. C'est ainsi que, en 1864, s'est tenue à Bayonne, sur les remparts Lachepaillé, une exposition internationale franco-espagnole qui montrait les dernières réalisations de la fonte, et lui-même cherchait une statue de la Sainte Vierge. Il a choisi cette statue de la Vierge qui sortait des fonderies du sel, et il l'a offerte donc à la ville de Biarritz pour la plus grande joie de l'impératrice Eugénie et désormais pour la plus grande joie de tous les Biarrots, car la Vierge du Rocher a un très beau succès dans la carte postale, dans les rues de Biarritz où le médaillon du rocher avec la Vierge très visible sur ce rocher est tout à fait visible. Et le rocher de Cucurlon lui-même, qui a reçu alors une passerelle de bois, puis une passerelle de pierre, puis passerelle en fonte, des passerelles constamment entretenues, remaniées. L'année dernière encore, il y a eu de très gros travaux. Ce rocher, dans la seconde moitié du XIXe siècle, s'est appelé le rocher de la Vierge. Voilà, là, en quelques mots, cette raison qui nous réunit ici. Mais qu'en est-il de Biarritz? Quelle est la vie religieuse à Biarritz dans ce milieu du XIXe siècle? Pourquoi l'empereur et l'impératrice? Bon, ce sont des données que vous possédez tous. Vous avez tous lu et entendu des conférences sur Napoléon III et l'impératrice Eugénie à Biarritz. Mais enfin, précisons un petit peu, rapidement, car il faut que vous alliez voir le coucher du soleil aussi, que vous alliez voir toutes les fêtes dans Biarritz. Donc, rapidement, qu'en est-il? Qu'en est-il? Eh bien, Biarritz se fait connaître dans des textes très certains de 1160, 1180, le seigneur Gassion de Biarritz offre à l'évêque de Bayonne tous ses revenus qu'il possède sur la paroisse Saint-Martin, car, comme tous les seigneurs terriens de cette époque-là, lui-même venait d'une famille qui avait aidé à la fondation ou au développement de cette paroisse de Saint-Martin, et il en touchait des revenus, des dîmes, des quelques revenus qui ne devaient pas être flambants, mais qui lui permettaient évidemment d'assurer sa vie seigneuriale. Il offre tout à l'évêque de Bayonne en 1160. Ce serait le premier témoignage écrit et tout à fait authentique de la ville de Biarritz, et surtout de cette appartenance de la paroisse de Saint-Martin de Biarritz à l'évêché de Bayonne, puisque l'évêque en reçoit ce don. Par la suite, 1180, 1200, 1260, etc., 1300, il est question de ces réassurances, comme l'on dit dans le langage archivistique, de ces dons de dîmes et de legs à la cathédrale de Bayonne. Les archivistes biarrot très militants assurent qu'on trouve la mention de Biarritz dès le 7e siècle dans des cartulaires monastiques, mais tout le monde sait que les cartulaires monastiques ont été compilés et recopiés à la fin de l'époque médiévale, quelquefois en imaginant en toute bonne conscience le passé flambant, le passé magnifique de l'agglomération. Restons-en donc à 1160 pour la première mention, ce qui est déjà très méritoire pour la ville de Biarritz, village de pêcheurs, village surtout d'agriculteurs, de fermiers, de propriétaires fonciers qui grandit et qui vit de façon traditionnelle autour de l'église de Saint-Martin dans le quartier du Haut. La ville de Biarritz est en quelque sorte, enfin le village longtemps de Biarritz est en quelque sorte tout au long de l'époque médiévale un double village avec un double quartier. Le quartier du Haut qui est celui des exploitants terriens, des fermiers, autour du seigneur de Bélé, Bélé, Blé, donc BE2LAY ou BELET ou BLAY. Une impasse Bélé se trouve près du parc Grammont actuellement, marquant sans doute cette ancienne propriété. Donc des seigneurs terriens, des fermiers, des agriculteurs qui mettent en valeur la terre de façon la plus traditionnelle. Et une église qui dépend donc de l'évêché de Bayonne et qui, au moment de sa reconstruction du XIIIe siècle, car les endroits les plus anciens de l'actuelle église de Saint-Martin sont du XIIIe siècle, avec des remaniements du XVIe siècle, XVIIe siècle, etc., surtout l'époque de Napoléon III, nous allons voir. Donc, XIIIe siècle prend le style de ce gothique méridional qui est alors réussi dans la cathédrale de Bayonne. L'église de Biarritz n'a pas du tout la configuration d'une église basque traditionnelle, à part peut-être la tribune des hommes qui est le premier étage sous l'orgue actuellement, donc la tribune proprement dite qui rappelle la tribune des hommes et en général une galerie de premier étage qui court le long des nefs, ce qui n'est pas pour Saint-Martin, donc simplement cette tribune réservée aux hommes alors que les femmes restent dans la nef du bas. Ce serait sujet à caution, car le seigneur de Bélé lui-même, on le sait par une visite épiscopale de 1710, les seigneurs de Bélé et leurs successeurs ont droit de gîte, c'est-à-dire qu'ils ont leur sépulture dans l'église, à l'intérieur. Ils ont leur enclos et leur siège, et ce droit de siège leur permet d'avoir leur banc réservé, leur fauteuil traditionnel, une grille qui fait le tour de ce siège et de ces sépultures familiales. Une grille d'ailleurs qui est tellement ouvragée et tellement haute qu'elle empêche les paroissiens qui se trouvent logés dans la nef comme ils peuvent derrière de voir les suites de la cérémonie. Il faut intervenir auprès de ce seigneur pour qu'il fasse abattre les grilles. Enfin, vous voyez, des rodomontades, des racontars, une sorte de surenchère à la présentation seigneuriale qui, je dirais, est assez inévitable et que l'on rencontre à peu près partout dans les églises à l'époque moderne lorsque un seigneur vit au milieu de ses fermiers paroissiens et lui-même gouverne d'assez près la vie religieuse et économique de sa paroisse. Le quartier du Haut, autour de Saint-Martin, où l'essentiel est rassemblé. Et comme toutes les églises du Labour et du proche Béarn, où l'on suit ce que l'on appelle la noblesse terrienne, la noblesse réelle. On est seigneur de la terre que l'on possède. On porte le titre seigneurial, noble si l'on veut, de la terre que l'on possède. Donc ce seigneur, donc, ainsi lègue sa terre à toute une série de successeurs qui se disent toujours donc, de Belley, de Biarritz ou de Saint-Martin, la terre de Saint-Martin. Cette église est en même temps monument civil autant que monument religieux. C'est dans l'église que siège le conseil, on va dire municipal, le conseil de la communauté de Saint-Martin, c'est-à-dire la communauté de Biarritz. Conseil de la communauté de Saint-Martin et communauté de Biarritz sont tout à fait synonymes. Ceci dans une salle qui est toujours visible si on peut y monter, dans une salle qui est au-dessus du porche de Saint-Martin, une sorte de salle à tout faire où l'on trouve très longtemps, et chaque visite et chaque document l'atteste, les coffres qui contiennent les archives de la ville ou du village ou de la ville. C'est là que siège ce conseil qui groupe le responsable principal de la communauté de Saint-Martin, qui est le maire abbé. On les appelle les abbés laïcs dans le Béarn, les maires abbés dans les villes et les villages du Labour, c'est-à-dire le premier jurat de la ville, qui n'est pas du tout un ecclésiastique, qui est réélu par la communauté tous les ans, ou tous les 3 ans, ou tous les 6 ans, donc réélu, coopté, se passant les pouvoirs de père en fils, ainsi de lignage en lignage. Voilà le maire abbé qui prendra le nom de maire seul, au moment de la Révolution française, mais qui est le maire abbé, qui est lui-même entouré de 4 jurats qui représentent les 4 quartiers fondamentaux de Biarritz et de 12 députés. Tout ceci, les députés, les jurats, le maire abbé, étant responsable donc de la vie économique, on n'ose pas dire encore politique, la vie seigneuriale, la vie économique, etc. de Biarritz, et la vie religieuse, car c'est ce conseil que je vais donc appeler municipal par facilité, on va dire le conseil communal, voilà, le conseil communal de Saint-Martin. C'est ce conseil qui paie une allocation annuelle aux prêtres desservant la paroisse, le curé, et qui en effet a besoin, en plus de ce que lui donne l'évêché, d'une allocation particulière pour célébrer les cérémonies qui demandent évidemment des cierges et tout un certain appareil, voilà, qui paie également en même temps l'instituteur qui dépend de la paroisse, qui donne la classe dans cette salle toujours qui se trouve au-dessus du porche de Saint-Martin, et une petite école donc, et cet instituteur lui-même est aidé d'un régent, et tous deux doivent assurer en même temps, ils doivent être excellents en plein chant, ils doivent assurer le chant des vêpres ainsi que les cérémonies des funérailles et des mariages. Voilà, donc vie religieuse, vie communale, vie économique pour le quartier du Haut, le quartier de Biarritz. Dans les marges de ce quartier du Haut, qui est tout de même le principal, puis le quartier de Boussingori, qui est actuellement le quartier Laouze, le quartier de Hurlag, qui est celui du Haut des Falaises, le quartier du Bas. Le quartier du Bas, c'est celui du port, c'est celui des marins, c'est celui des pêcheurs, tout à fait différent, semble-t-il. À l'examen, il ne doit pas être très différent, mais enfin, ce sont d'ailleurs les mêmes familles. Mais en tout cas, qui vit de sa vie autonome, le quartier du Bas, qui est celui donc, de la mer et de tous ceux qui vivent de la mer, très différent, vous voyez, économiquement, de tous les agriculteurs, laboureurs, fermiers, etc., qui gravitent autour de l'église et du seigneur de Belley. Donc, les voilà, c'est le quartier du Bas, et c'est ainsi que ce quartier du port groupe les fameux chasseurs de baleines, dont il est question dès le XIIIe siècle, peut-être avant, mais on n'a pas de documents écrits. En tout cas, le premier sceau de Biarritz, qui est du XIIIe siècle, porte à son avers Saint-Martin partageant son manteau, et au revers, la barque avec les pêcheurs, et la baleine elle-même qui vient d'être attrapée par les pêcheurs. Les pêcheurs et ces gens de la mer disposaient du port du Boucalo, c'est-à-dire la petite embouchure, le petit port, qui est aujourd'hui donc la plage du Port Vieux. Cette plage de Boucalo était très peu aménagée pour les bateaux de fort tirant d'eau. C'était pour des des pinasses, des chaloupes qui permettaient d'aller au large. Les baleines devaient être plutôt des cachalots ou des marsouins, mais enfin, disons toujours les baleines, qui passaient au large. Et c'est ainsi que les barques étaient remisées sur le sable de ce port du Boucalo, tirées, retirées au large dès que les signaux montraient qu'une baleine était détectée à l'horizon et qu'on pouvait y aller. Et c'est ainsi que la vie était partagée entre l'attente de la grosse prise, le partage, la pêche, oui, mais la dernière baleine est tuée en 1636. Déjà, les baleines se raréfiaient depuis largement un siècle, pour ne pas dire deux, remplacées par toutes sortes d'autres poissons que l'on allait chercher tout de même et qui étaient ensuite négociés. Et donc, après la dernière baleine, il a fallu orienter l'activité économique de ces pêcheurs vers d'autres horizons. C'est alors qu'ils sont partis très loin. Ils sont allés pêcher le thon en Mauritanie et la morue à Terre-Neuve, comme les marins de Saint-Jean-de-Luz, les marins de Bayonne, les marins de Cap-Breton, les marins de Saraos et de Saint-Sébastien, et de Laredo et de Bilbao et de Laredo, donc pour cette activité de toute la côte de notre golfe, de la côte cantabrique et le golfe de Gascogne. Les pêcheurs de Biarritz, une fois, et ça c'est traditionnel dans tout le monde de la pêche, une fois tous les poissons ramenés dans leur barque, étaient échangés d'abord selon le rôle tenu par les pêcheurs. On échangeait les prises sur le sable, puis tout ce qui restait, le plus possible bien sûr, était chargé par les femmes dans des grands paniers sur la tête ou dans les cacolets à dos d'âne et devait être vendu dans le marché de Bayonne. C'est toujours le privilège de Bayonne, ça allait rester très longtemps. C'était à Bayonne que se négociaient tous les surplus de pêche et cette fameuse dîme qui était la dîme de la baleine, car on devait, après ce don des dîmes un petit peu monnayées du XIIe siècle, la dîme est devenue la dîme de la baleine, offerte au chapitre des chanoines de Bayonne et à l'évêque, surtout la part de la langue de la baleine, qui est réputée être plus riche en graisse et en vitamines, donc ce que nous appelons maintenant, depuis les découvertes modernes, les vitamines, étaient donc apportées d'abord à l'évêque. C'est très tard que l'évêque et les chanoines s'en sont dessaisis. Et surtout, depuis le XVIIIe siècle, tout ceci, alors, il n'y avait plus de baleines, plus de... remplacé par une dîme monnayée sur tous les revenus, à la fois de la pêche ou de la vie rurale de la communauté de Saint-Martin. Vie conjointe de Biarritz et de Bayonne, vie de cette double localité de Biarritz, le Biarritz du haut de Saint-Martin, Biarritz du bas du Boucalo et du Petit Port. Le port de Boucalo lui-même étant protégé par des tours de guet, que l'on appelle bien sûr dans la région des Atalailles, et ceci tout le long de la côte cantabrique, des grandes tours où l'on entretient des feux, les haies ou les haillées, la haie, la tour de la haie ou la tour de la talaille, mais la haie s'écrit H-A-I-2-L-E et ce serait en gascon, la talaille serait plutôt en basque puisqu'on le trouve tout au long de la côte cantabrique, donc les atalayas ou les atalailles, ou un guetteur, le haillé qui entretient le feu, doit signaler un peu tout ce qui se passe à l'horizon, signaler le passage de la baleine donc jusqu'au XVIIe siècle, signaler quelques pirates naufrageurs qui n'ont pas manqué par la suite, signaler des ennemis, des descentes d'ennemis, signaler surtout des tempêtes et des naufrages, de façon à ce que tout le monde se remue pour aller soit lutter, soit prêter main forte, soit abriter, soit chercher ceux qui sont en péril pour les ramener dans le port du Boucalo. Ceci donc tout autour du port de Boucalo, mais sur la colline de droite en regardant vers la mer, c'est-à-dire donc vers le nord, se trouve, c'est aujourd'hui d'ailleurs la tour de la Talaille, se trouve une tour qui rappelle le château de Ferragut qui aurait été élevé par le prince noir au XIVe siècle, le prince noir lui-même qui était le fils d'Édouard III d'Angleterre, car Biarritz étant dans la principauté d'Aquitaine, se trouvait donc dans l'administration directe tout au long de l'époque médiévale de ce duc d'Aquitaine qui, depuis Aliénor d'Aquitaine, est en même temps roi d'Angleterre. Donc au moment de la guerre de Cent Ans, toute cette communauté de Biarritz, comme le reste et comme toute l'Aquitaine, se trouve administrée par un seigneur anglais ou d'obédience anglaise contre le roi de France. On se fait la guerre, il y eut des échauffourées, ou plus que des échauffourées, donc nécessité de fortifications. C'est ainsi que le prince noir, qui meurt en 1376, aurait fait édifier ce château de Ferragut, qui a été achevé, enfin dont la démolition a été achevée par petits pans entiers, il partait en pièces détachées, donc au début du 19e siècle. Il est resté quelque temps une tour de la Humade sur l'emplacement de la côte des Falaises, qui est aujourd'hui, si vous voulez, la perspective Miramar ou la côte des Falaises, ce qui surplombe la côte des Basques. Mais outre cet emplacement, il n'y avait plus de traces du tout dans Biarritz de ces très anciennes fortifications. La ville est de toute façon, depuis le fin du XVIIIe siècle et surtout tout au long du XIXe siècle, XXe siècle, en essor, en construction. Et ces derniers pans de pierre, dont personne ne connaissait plus l'histoire, ont été démolis pour être remplacés par des grands hôtels, des grandes villas, des grands châteaux, des grandes folies, etc. Donc pour abriter les visiteurs ou les biarrots ou les grandes familles qui le désiraient ainsi et qui venaient de tous les horizons géographiques, sociaux et confessionnels. La vie de la côte elle-même était donc une vie qui avait son autonomie. La côte des Basques, qui est toujours la côte des Basques, est surnommée ainsi parce que, on le sait depuis le XVIe siècle, mais la coutume était sans doute antérieure, au 15 août, tous les gens de l'intérieur, donc les Basques de Arbonne, la campagne intérieure, venaient, hommes et femmes, tout habillés, se plonger dans la mer. Une sorte de communion de tous ces Basques de l'intérieur qui suivaient l'exemple et tout au moins qui venaient ainsi aider par un geste certainement très symbolique et sans doute remontant à une époque païenne. C'était là un rite très très ancien, il fallait se plonger dans la mer et puis en ressortir pour montrer qu'on appartenait autant à l'océan qu'à la terre bordière. Côte des Basques. Sinon, au-delà de ce port proprement dit et des rochers de Cucurlon, une grande courbe d'une autre côte qui était la côte des Fous, qui est aujourd'hui la grande plage et la plage Miramar, la côte des Fous, car on sait bien sûr que les vagues, l'océan en furie, guérit de la folie. Les fous, ou les supposés fous, étaient plongés dans la mer depuis très longtemps. La vague pâlit la folie. En 1405, le roi de Navarre voit son chien préféré, son lévrier, mordu par un chien enragé. Il paie tout de suite un valet et un chariot pour emmener depuis Pamplune et Olité son chien se baigner dans la mer à Bayonne et à Biarritz pour le guérir d'une éventuelle folie et le ramener en bon état jusque dans cette capitale de la Navarre. Où s'est-il baigné, ce chien ? À la barre ? Plutôt dans les vagues de la Grande Plage. Les vagues de la Grande Plage guérissent beaucoup mieux que dans tous les autres points de la folie. On en est persuadé. Voilà, Miramar ou la Grande Plage, la côte des Fous. Et enfin, fermant le territoire de la communauté de Saint-Martin, le Cap Saint-Martin, qui est celui où une tour à talaille plus haute que les autres, avec un feu en permanence, forme en quelque sorte un premier phare, et va devenir à partir de 1835 le phare actuel, le phare de Biarritz, qui a été donc construit, puis par la suite élevé, remanié et constamment travaillé. Voilà la situation donc de Biarritz. Rocher de Cucurlon, c'est du gascon. La majorité d'ailleurs des noms de Biarritz à Biarritz, on vit en Gascogne, en Aquitaine, avec des noms gascons, ou tout au moins en majorité, comme à Bayonne alors. Il faut vraiment attendre Bidart, Saint-Jean-de-Luz et les terres de l'intérieur pour trouver évidemment un peuplement basque, tout au long de l'époque médiévale et de l'époque moderne. Les noms du Biarritz se trouvent dans la communauté parmi les maires abbés, les jurats, les députés, les principaux propriétaires terriens et vont traverser les siècles. Ce sont des noms que nous suivons toujours. Nous avons les Arostegui, c'est un nom basque, les Laregui, d'Albarade, le nom d'un corsaire, Mimiag, Cazo, etc. Pardonnez-moi, ça viendra. Vous voyez donc des noms tout à fait gascons qui se trouvent dans ces territoires de Biarritz. Cependant, ces bains de mer, qui ont été longtemps regardés un peu de très haut par les responsables, certes, les pêcheurs ont besoin d'aller dans la mer. Certes, les Basques, le 15 août, après les cérémonies religieuses, se plongent dans la mer et s'en vont. Mais les bains de mer sont regardés de très haut et avec beaucoup d'approbation par le commissaire Pierre de Lancre, par exemple, qui est envoyé par Henri IV en 1609 et qui reste jusqu'en 1610 dans toute la région des Basques et des terres littorales pour lutter contre les démons, contre les sorcières. Et c'est ainsi qu'il fustige de loin certaines femmes de Biarritz qui sautent sur les rochers et n'hésitent pas à mettre leurs jambes dans l'eau de la mer. 1609, 1610, puis par toutes sortes de documents écrits, ainsi un testament encore de 1782 d'une demoiselle Cavalier de Biarritz qui lègue dans son testament une certaine somme pour l'entretien d'une rosière, c'est-à-dire une jeune fille de très bonne moralité qui doit se mettre au service de la paroisse et que l'on doit honorer, à condition que cette rosière soit bien sûr de Biarritz, mais à condition qu'elle n'aille jamais se baigner à la plage. 1782. Or, les bains de mer sont déjà évidemment assez fréquentés. On a dans les mêmes années des témoignages tout à fait magnifiques à lire de Malesherbes qui a exploré toute la région, qui est même monté sur la Rune, qui est allé ensuite jusque dans la région de Saint-Sébastien et qui s'est baigné dans les plages de Biarritz en laissant des pages magnifiques sur les paysages des côtes de Biarritz. Donc, Malesherbes à l'extrême fin du XVIIIe siècle, il est contemporain de Louis XVI, c'est lui qui travaille avec Louis XVI d'ailleurs pour l'émancipation des protestants, puis l'émancipation des juifs, et comme Louis XVI, il a été décapité en 1793. Mais aussi 1835-1840, le fameux passage à Biarritz de Victor Hugo. Victor Hugo a laissé des pages encore plus somptueuses sur les rochers battus par les vagues, sur les côtes de Biarritz, sur la joie d'entrer dans la mer et de se faire fouetter par les vagues. Voilà. Donc, Victor Hugo disant d'ailleurs, il arrivera un moment où l'on va construire des fausses maisons, des faux balcons, des fausses grottes, et qu'on va mettre des pantalons aux baigneuses, et je le déplore. Enfin, voilà, 1840, on sait qu'en 1834, Eugénie de Reina de Montijo y Guzmán, la petite Eugénie avec sa mère et sa sœur, est venue chez des villageois qui tenaient une auberge dans le quartier du port, donc pour profiter des vacances, et elle s'est baignée, elle a été enchantée par Biarritz. Biarritz, où donc elle a passé quelques années d'enfance, elle grandit. En 1852, Louis-Napoléon Bonaparte, l'un des neveux de Napoléon Ier, bon, n'entrons pas dans les détails de la biographie jeune de Louis-Napoléon. Louis-Napoléon, donc, prend le titre impérial, Napoléon III. En 1853, il épouse Eugénie de Montijo, bon, Montijo, donc Eugénie, et le couple s'installe dès 1854 sur les instances de Eugénie pour les mois d'été à Biarritz. À ce moment-là, rien n'est prévu pour les recevoir, des auberges, oui, il y en a. Il y a aussi une chapelle qui se trouve sur cet emplacement ici, qui est la chapelle de Notre-Dame de la Pitié, qui est vénère une statue de bois qui représente une Pietà, la Vierge tenant sur ses genoux le corps mort du Christ, la Pietà. Vous connaissez tous le symbole de la Pietà. Et cette chapelle qui se trouve ici se trouve dans la dépendance des domaines du seigneur de Belley, dont le château principal. Donc il y eut sans doute un petit château secondaire près de Saint-Martin, mais surtout son château principal se trouve dans le fond du port du Boucalo, donc dans le fond actuel de la plage du Port Vieux. Nous sommes ici tout près du Port Vieux et il est très logique que dans les terres, dans les propriétés de ce seigneur de Belley, se trouve une chapelle qui est donc de Notre-Dame de la Pitié, où l'on vénère cette statue. Une statue pittoresque qui aurait été, elle doit être du XVIIe siècle, on a une vieille photo, mais il est difficile de l'identifier tout à fait. Cette statue aurait été découverte de façon quasi miraculeuse sur les rochers voisins, à côté du port. On l'a amenée, on l'a apportée dans la chapelle Notre-Dame de la Pitié. Elle essayait de rester dehors. D'elle-même, miraculeusement, elle se transportait dehors. Elle ne voulait pas rester enfermée. Donc, on a aménagé une petite guérite sur la façade pour lui permettre d'être toujours à l'extérieur. Mais de temps en temps, elle tombait d'elle-même au bas de sa guérite. On la trouvait à terre le lendemain. On savait que c'était pour prévoir une catastrophe. On savait que c'était l'arrivée d'une tempête. À ce moment-là, les bateaux ne sortaient pas et les pêcheurs attendaient que d'elle-même, la statue de la Pietà remonte dans sa guérite. On peut le dire tout de suite, Notre-Dame de la Pietà a été d'abord enfermée par le curé Lard, dont nous allons parler au moment où il construit sur l'emplacement de Notre-Dame de la Pitié cette église Sainte-Eugénie à partir de 1902-1905, et un jour elle a disparu. Elle a probablement été volée, mais on raconte toujours dans Biarritz que miraculeusement elle est partie pour annoncer des catastrophes, des tempêtes, certainement des catastrophes politiques. Nous sommes avant les guerres mondiales, les changements politiques, les grosses difficultés du XXe siècle, et Notre-Dame de la Pitié avait donné donc son signal traditionnel. En tout cas, on ne l'a toujours pas retrouvé, et donc les catastrophes continuent, croyons-le. Voilà ainsi cette légende de la Vierge de la Pietà. Mais c'est alors que le couple impérial, pour être tout près de Saint-Martin et pour garder évidemment la gestion sur l'ensemble de la communauté, se fait d'abord abriter chez des amis, les Gramont de Castéra, qui possède un château qui devait être du XVIIIe siècle, qui a été démoli justement au milieu du XIXe siècle pour être remplacé par le grand château de briques, qui est donc le château Gramont ou le château des Mirons de l'Épinay ou des Labatte à côté de l'église Saint-Martin. Ils se sont mis au goût du jour et ils ont édifié leur château comme on le faisait à peu près partout. Et c'est ainsi que longtemps, pendant quelques années, les souverains passaient leurs étés à Biarritz et vivaient chez les Gramont de Castéra. Mais dès 1856, Eugénie et Napoléon III, donc l'empereur et l'impératrice, ont décidé de faire construire véritablement une villa dans leur propriété. Et c'est ainsi qu'ils ont acheté un terrain bordant la côte des Fous et le Cap Saint-Martin, qui va devenir donc le domaine impérial. Et à partir de 1856, ils édifient ce qui va devenir la Villa Eugénie, qui d'ailleurs a été élevée très rapidement, car la cour y réside désormais dès 1856-1858, pratiquement tous les étés, et ceci jusqu'en 1869, à part quelques années d'abandon pour des raisons ou d'autres. En même temps que l'on construit cette résidence impériale, on va voir d'ailleurs le monde qui s'y précipite, l'impératrice décide de l'édification d'un lieu de culte. Donc on pense déjà à aménager Notre-Dame de la Pitié. Il y avait aussi la chapelle Notre-Dame du Bon Secours, qui n'avait pas de culte particulier ni de vénération très développée, mais qui a été abandonnée très vite à ce moment-là et qui serait ou la pâtisserie Miremont ou la banque Inchauspé, donc dans le centre du fond de la place centrale, de la place Clémenceau. Voilà. Et surtout, le couple impérial décide de l'édification d'une chapelle dans le domaine impérial. Cette chapelle est terminée en 1855-1856, inaugurée donc aussi à ce moment-là. Et l'impératrice Eugénie a voulu l'appeler Notre-Dame de la Guadalupe. La Guadalupe, c'est une longue histoire, car nous sommes au moment des événements de la guerre du Mexique. Le couple impérial aide, c'est une suite d'imbroglio administratif et politique, aide le cadet de la maison des Habsbourg, Maximilien, qui est le frère cadet de François-Joseph, de l'empereur François-Joseph. Maximilien cherchait un trône, il aurait bien voulu occuper un trône en Vénétie, un côte en Istrie, enfin dans ses possessions des Habsbourg qui se trouvent dans le fond de l'Adriatique. Mais François-Joseph ne voulait pas constituer un royaume autonome quasi indépendant à l'intérieur de l'Empire austro-hongrois. Et c'est ainsi que, apprenant que le Mexique faisait sa révolution, l'empereur et l'impératrice ont aidé Maximilien de Habsbourg, qui avait épousé une princesse de Belgique, Charlotte, fille de Léopold Ier de Belgique, à partir en 1863. Les premiers temps avec une petite armée française, les premiers temps ont été des réussites, mais on peut le dire tout de suite, à partir de 1865-1866, ça a été la fin. Maximilien a été d'ailleurs fusillé à ce moment-là. Charlotte est revenue en catastrophe en Occident et elle a perdu la raison. Donc ça a été la débandade de cette expédition du Mexique. Or, le Mexique vénérait Notre-Dame de la Guadalupe, mais Notre-Dame de la Guadalupe elle-même, à l'origine, était une vierge médiévale et espagnole. La vraie Guadalupe se trouve dans Extremadure, dans le sud de Tolède, entre Tolède et Cáceres. Donc, un centre de vénération, de pèlerinage, qui remonte au XIVe siècle. Guadalupe est un nom de consonance arabe, Wadi al-Loub, le Val des Loups. Je ne sais pas si les gens de notre Guadeloupe ou de Guadalupe du Mexique savent s'ils vivent au milieu des loups, mais c'est le Val des Loups, la Guadalupe ou la Guadeloupe. Donc la Guadeloupe espagnole, la Guadeloupe de l'Estrémadour, la Guadalupe, était un centre de pèlerinage, devenu au XIVe siècle un très important monastère de l'ordre de Saint-Jérôme ou de Hiéronymite, qui est un ordre purement espagnol, castillan et des autres royaumes de l'Espagne, mais surtout castillan à l'origine, comme la Sisla, le Prado, Yuste, où s'est retiré plus tard Charles Quint, l'Escorial, qui a été une fondation au XVIe siècle de Philippe II, c'est donc l'ordre des Hiéronymites. Et c'est ainsi que les moines de la Guadalupe ont beaucoup aidé Christophe Colomb, comme les franciscains de la Rabida, d'être écouté par la reine Isabelle de Castille, de constituer sa flotte, une aide politique et économique très importante pour lui permettre son grand voyage à travers l'Atlantique. Et c'est à son deuxième voyage, en 1493, que Christophe Colomb a trouvé une île qu'il a appelée Guadeloupe en vénération, donc enfin Guadalupe en vénération, en hommage à ses moines de la Guadalupe de l'Estrémadour qui l'avaient aidé. Cette Vierge de Guadalupe s'est trouvée sainte patronne de toutes les terres redécouvertes en Amérique. Donc c'est le moment des grandes découvertes dans le Nouveau Monde. C'est ainsi que, grâce à un autre miracle et une apparition magnifique à un paysan mexicain, la Vierge de la Guadalupe a eu son oratoire, puis son centre de pèlerinage, puis donc son lieu de vénération à côté de Mexico, et donc s'est trouvée la sainte patronne du Mexique, de Mexico, et également de toutes les terres découvertes dans le Nouveau Monde. Donc la Guadalupe de Biarritz en a porté le titre. Il y a des prieurés de Guadalupe un peu partout, donc dans toute la région. Nous avons une Guadalupe sur les pentes du Resquibel, par exemple. C'est un prieuré de la Guadalupe d'Estramadour. Voilà, les chapelles impériales. La chapelle impériale qui porte toutes les vénérations à date fixe, aux dates anniversaires de toutes les fêtes ou de toutes les dates donc, de la famille impériale. Biarritz s'est agrandi. Biarritz Biarritz a reçu tout le monde. Biarritz a reçu des Espagnols, a reçu des Anglais, a reçu des Russes, a reçu des Allemands, a reçu donc de toutes les situations. Des têtes couronnées qui sont venues à la cour impériale, et puis au-delà de la cour impériale, donc qui, après 1870, le pli était pris et on continuait à venir. Mais des grandes rencontres politiques ont marqué aussi cette vie de Biarritz. En effet, grande rencontre de 1865, nous devrions le rappeler. Certains disent que c'est bien dommage. Bismarck est venu à Biarritz, la fameuse entrevue de Biarritz, 1865. Il s'est baigné dans les vagues, il a failli être emporté dans les vagues, et c'est le brave Lafleur, qui est alors gardien du phare, qui a vu qu'il était en difficulté, qui est venu le sauver. Mais Lafleur lui-même est mort quelques heures après, alors que sa femme allait accoucher. Le bébé a naturellement été le filleul de Bismarck, tout au moins Bismarck parrain honoraire, car pour la cérémonie, il fallait un catholique. Et c'est ainsi que ce bébé Lafleur a été porté sur les fonts baptismaux à Saint-Martin, bien sûr, il n'y en a pas d'autre alors, par le prince Walewski, qui était lui-même un enfant bâtard de Napoléon Ier, et de la princesse Marie Walewska de Pologne, et qui était le ministre des Affaires étrangères, soi-même, de Napoléon III. Et sa marraine a été la princesse Orloff, qui était orthodoxe, mais très favorable et très bien acceptée, donc, dans ce baptême catholique du petit Lafleur. Mais Bismarck a vécu, Bismarck en a réchappé, et c'est ainsi que, 5 ans après, donc, la France a été complètement vaincue par les armées de Bismarck, mais ça c'est une autre histoire. Les Allemands, les Anglais, la reine Victoria, la fille de la reine Victoria, Frédérica de Hanovre, le fils de la reine Victoria, Édouard VII, toute la cour d'Angleterre et tous les Anglais qui vivent avec prédilection à Biarritz et à Pau, qui organisent des chasses à cour et des golfs à Pau et à Bayonne, et à Biarritz, pardon, le premier golf de Biarritz, qui est de création anglaise, le club anglais, etc., les chasses à cour, le polo, le concours hippique, tout ce que l'on doit aux Anglais pour nos vacances et pour notre bien-être et leur présence. Et cette reine Victoria, qui, en 1889, est venue inaugurer l'église anglicane que l'on construisait depuis 1851, car les anglicans, très nombreux à Biarritz, désiraient leur église, désiraient leur temple, leur église anglicane. Et après un premier essai tout près du marché, on leur a donné la permission d'édifier l'église Saint-Andrews qui se trouve rue Brogdis. Donc, très tôt, vous voyez, déjà dès la fin de l'époque impériale, puis dans le courant du XIXe siècle, et c'est ainsi que l'église anglicane s'est développée. Elle porte sur son fronton les noms de tous les Anglais tués dans la bataille de 1808-1812 qui s'est déroulée sur les hauteurs de Barroyer, mais il est permis d'entrer quand même dans Saint-Andrews, quoique. Et c'est ainsi que Saint-Andrews est devenu, il a été sauvé de la démolition et il est devenu le musée historique de Biarritz. En même temps, beaucoup de protestants calvinistes français ou protestants allemands et luthériens qui se trouvent dans Biarritz. Ils avaient une petite salle dans la Villa Eugénie, il fallait trouver un lieu de culte et c'est ainsi que la comtesse Nadaillac, qui était née de l'Esser. Les Delessert, une très vieille famille, enfin importante famille d'industriels parisiens, très calvinistes. Et cette dame Delessert était une amie personnelle de l'impératrice Eugénie et elle-même mariée à un catholique, très pratiquant, on n'en sait rien, mais en tout cas catholique, le comte de Nadaillac, qui par la suite s'est trouvé le préfet du département des Basses-Pyrénées. La comtesse de Nadaillac a voulu absolument aider ses protestants pour avoir un lieu de culte. Les protestants de Biarritz dépendaient du consistoire d'Orthès. Le pasteur Cadier, qui était à la tête de ce consistoire d'Orthès, a beaucoup hésité. Finalement, en 1884, il a prononcé une phrase qui a décidé tout le monde. Ils voudront, en s'édifiant eux-mêmes, contribuer à faire entendre plus largement la parole évangélique dans cette ville où la frivolité, la mondanité, hélas, et trop souvent les vices s'étalent avec tant d'éclat. C'est ainsi que, pour éviter cette frivolité et ces vices, on a construit le temple de la rue Peyroloubil. La comtesse de Nadaillac a absolument exigé qu'une croix soit tracée, soit élevée, soit façonnée sur la façade du temple, alors que les protestants n'en voulaient pas et que le pasteur Cadier n'en voulait pas, mais elle l'a voulu et la croix y est toujours, donc sur la façade de l'église réformée de la rue Peyroloubil. Voilà, donc vie des anglicans, vie des protestants, vie des russes orthodoxes. Les russes sont très importants dans Biarritz, les Orlov, les Yusupov, les Romanov, bien sûr, qui sur plusieurs générations, jusque très tard au XXe siècle, il y eut le grand-duc Michel de Romanov ici dans Biarritz, par exemple. Nous avons donc cette présence russe, qui aussi à l'origine avait quelques salles, c'est tout, mais enfin, on y arrive, là encore, dans les années 1880, vous voyez une des dates qui, dans toute cette seconde moitié du XIXe siècle, marque l'édification des lieux de culte, et c'est l'édification et l'inauguration, donc à la fin du XIXe siècle, de l'église de la protection de Notre-Dame et de Saint-Alexandre Nevski, c'est-à-dire tous les vocables des églises russes que l'on trouve en France, de la cathédrale des orthodoxes de la rue Daru à Paris, église de Nice, église de Pau, église ainsi de Biarritz, pour ces lieux de culte. Avec les Russes, des Juifs russes, surtout avec la famille Poliakov, se trouve également dans Biarritz. Les Juifs allaient dans la synagogue à Bayonne, mais le jour du Shabbat, on ne doit pas se déplacer plus qu'un certain périmètre. Il leur fallait leur lieu de culte également dans Biarritz. Ils étaient 20, 25, 30 familles juives, surtout originaires d'Europe centrale et du monde ashkénaz, alors que les Juifs de Bayonne sont d'origine séfarade, donc des réfugiés d'Espagne. Ils sont tout à fait différents à l'origine. Et c'est ainsi qu'en 1902, 1905, début du XXe siècle, la synagogue, tout près de l'église russe, donc rue de Russie, et à la croisée de la rue Pello, se trouve également cette église, cette synagogue, pardon, pour l'édification des Juifs. Pendant ce temps-là, la ville de Biarritz s'est donnée de nouvelles paroisses, de nouvelles chapelles, de nouvelles paroisses, et c'est ainsi que, grâce à la reine Nathalie de Serbie et au curé Lard, nous avons l'édification de cet édifice Sainte-Eugénie où nous nous trouvons, bien sûr. Cette chapelle Notre-Dame de la Pitié avait pratiquement disparu. De toute façon, ce n'était qu'une toute petite chapelle avec cette statue, donc j'allais dire folklorique, mais nous n'allons pas dire cela, miraculeuse, bien sûr. Et donc, la reine Nathalie, qui était elle-même une Russe de naissance orthodoxe, Nathalie Keshko, fille d'un officier de cavalerie de la garde tsariste, a épousé le roi de Serbie, Milan Obrenović, à la fin du XIXe siècle. Elle n'aimait pas rester beaucoup en Serbie. Elle se trouvait un peu en porte-à-faux en Serbie. Le ménage ne s'attendait pas, mais ils ont eu quand même un fils, Alexandre, qui, tout jeune enfant, adolescent, a succédé à son père, qui a abdiqué en sa faveur, donc dans les années 1876, 1880, 1890, le roi Alexandre. La reine Nathalie a désiré vivre ici à Biarritz, d'abord, avec son fils, le roi Alexandre. Ils ont eu deux résidences, en plein Biarritz, une grande maison avec un grand domaine, au dépens duquel s'est construit le marché et tout le quartier du marché, et le quartier Peyroloubil et le quartier en porte-à-faux, qui se trouve donc au-delà de la rue de l'actuelle, la rue de La Fontaine, où se trouve la grande maison Roi Alexandre. Roi Alexandre, car Nathalie de Serbie voulait évidemment l'éducation et la protection de son fils, le jeune roi Alexandre. Mais aussi, elle a décidé de prendre un grand domaine à la lisière de Biarritz et de Bidart sur les falaises d'Erretegia. C'est le grand domaine néoclassique de Sakino, Sakino étant le diminutif d'Alexandre en serbe. Et c'est ainsi que ce que l'on appelle toujours le pavillon de la reine Nathalie, mais qui est la villa Lesel de la famille Latécoère maintenant, se trouve dans un bois de pins et sur les falaises donc, de cet emplacement. La reine Nathalie protégeait en 1883 la fondation des Petites Sœurs des Pauvres à Biarritz, donc pour les vieux nécessiteux de Biarritz. Elle inaugurait tout ce qui était à inaugurer, la première pierre des Thermes Salins, par exemple. Une femme très attirée par la religion catholique. Elle a fini d'ailleurs par entrer dans la religion catholique romaine, mais à Paris, à partir de 1905-1910, tout en continuant à venir à Biarritz le plus possible. Et c'est ainsi que la reine Nathalie a beaucoup aidé l'édification et surtout la carrière, on peut le dire, de curé Lard. Le curé Lard, Gaston Lard, qui est né en 1863. Nous pouvons l'agglomérer dans nos centenaires de cette année, 1863, et qui est mort en 1934, je crois. Il est resté curé très longtemps ici, de 1894 à 1934, donc à son décès. Et c'est lui surtout qui a décidé, donc avec l'appui économique de la ville et de tous les paroissiens, de l'édification de cette église néo-gothique à l'emplacement de l'ancienne Notre-Dame de Pitié. Donc il aurait voulu garder cette statue qui s'est sauvée ou qui a été volée, et ainsi l'édification d'une église. 1900, 1910, 1930, le curé Lard, qui a son franc-parler, qui a une présence incontestable dans la vie religieuse de Biarritz, est profondément royaliste, tout au moins le royalisme de province que l'on aime montrer. Vous voyez toutes ces fleurs de lys qui sont en mosaïque partout, les fleurs de lys qui se trouvent dans la pierre, pardon, ici dans le chancel. Et alors, la vénération en part et d'autre ici, la nef, ces deux nefs, des saints masculins, des saintes féminines, à la fois des saints de France, saints et saintes de France, et de la région. Parmi les saints de France, vous verrez Saint Louis, etc., Saint Charles, bien sûr, Charlemagne, nous avons par la suite, dans le fond, Saint Michel Garicoïts, Saint Ignace de Loyola, Saint François Xavier, donc des figures bien de chez nous, et le Père Sestac, dont nous fêtons évidemment aujourd'hui même et toute cette semaine la béatification. À l'époque, il n'est pas du tout canonisé, mais pour le curé Lard, il est canonisé, on peut le ranger parmi les saints. Et parmi les saintes, nous avons donc les saintes traditionnelles, Sainte Madeleine, Sainte Marie, toutes les diverses Jeanne, dont Jeanne d'Arc, qui a été canonisée en 1920, mais béatifiée en 1904, tout à fait aussi dans cette chronologie. Nous avons vers le milieu, à côté de Sainte Monique, qui tient le petit Saint-Augustin, nous avons Sainte-Rictrude, et cela en dit long sur la culture historique de Gaston Lard. Sainte-Rictrude était une sainte mérovingienne qui avait fondé à Marchienne, dans l'extrême nord de la France, un couvent où les rois de France, quand ils en avaient le temps et la possibilité, le plus possible après leur sacre, passaient d'abord chez Saint-Marcoul de Corbeny, qui donnait le pouvoir miraculeux de la guérison des écrouelles, le roi te touche, Dieu te guérisse, et surtout aussi de Sainte-Rictrude de Marchienne, qui leur permettait de remplir saintement leur vie de monarque à la tête du royaume de France. Qui connaît Sainte-Rictrude à Biarritz? Point d'interrogation. Tous, oui, vous la connaissez tous, bien sûr, mais elle est là, et le curé Lard l'avait voulu parmi les saintes de France, autant que Sainte-Clotilde ou Sainte-Jeanne d'Arc, que l'on voulait ainsi. Sainte-Eugénie, bien sûr, chapelle Sainte-Eugénie, devenue église Sainte-Eugénie, et enfin Saint-Charles, qui a grandi aussi à partir de 1909, qui a été construite dans un quartier qui était à la fois le quartier très huppé de la Rochefoucauld, auprès des nobles de la Rochefoucauld, et le quartier du Gaz, qui était en plein essor avec l'ingénieur Génin. Et c'est ainsi que Saint-Charles est devenu une paroisse de Biarritz. Et dans l'entre-deux-guerres seulement, la paroisse Sainte-Thérèse, qui a été édifiée vers le quartier de Parme et les quartiers des lacs, lac Marion et le lac Morisco, un quartier qui se formait autour de la gare et autour, donc, toujours de Biarritz, qui demandait aussi son édification. Mais nous avons aussi les communautés religieuses, Notre-Dame de Sion, pour l'éducation des enfants, qui est devenue une maison d'éducation et d'enseignement général. Nous avons l'école de Sainte-Marie, nous avons l'école de l'Immaculée Conception, toujours fondation d'entre 1850 et 1910-1920, installation dans Biarritz, l'arrivée en 1882 des Petites Sœurs des Pauvres, à peu près dans les mêmes années des religieuses espagnoles, et puis des frères dominicains qui installent leur couvent dans le quartier du Marché. Les frères dominicains y sont restés jusqu'en 1962, et c'est ainsi que l'ancien couvent des dominicains est devenu la paroisse Saint-Joseph, rattachée à Sainte-Eugénie, desservie par le même clergé, donc de Saint-Joseph et Sainte-Eugénie, à partir de 1962. Voilà l'essor religieux de Biarritz, vous voyez, et toutes ces divers cultes, les cultes de la chapelle impériale, les cultes des autres chapelles devenues églises, églises paroissiales ou églises rattachées. La Vierge de la Pitié a disparu, mais la Vierge du Rocher est toujours là, elle y sera toujours, espérons-le. Elle n'a pas évité les naufrages et les noyades. Il y a eu à la fin du XIXe siècle un terrible naufrage, encore un autre dans l'entre-deux-guerres, vers 1920-1925 je crois, et les noyades, il y en a un petit peu tous les ans, malheureusement, malgré cette protection de la Sainte Vierge, mais la leçon à tirer est que la mère a sa personnalité. La mère à Biarritz, certes guérie de la folie, mais c'est une personnalité qu'il faut respecter. Miguel de Balsa le dira certainement demain. Il verra ce service et cette importance de la mère et donc de la vénération par l'Église. Et je vous remercie et pardonnez-moi d'avoir parlé si longtemps, car j'ai dépassé l'heure.
La vie religieuse à Biarritz, il y a 150 ans, vous venez de suivre une conférence de Béatrice Leroy, professeure honoraire de la faculté d'histoire de l'université de Pau, conférence enregistrée dans le cadre du 150e anniversaire de la Vierge du Rocher en l'église Sainte-Eugénie de Biarritz, le 7 juin 2015.